Je vous invite à prier avant de lire le texte de ce jour dans la Bible. Seigneur notre Dieu, chaque fois que nous nous approchons de ta parole, nous avons l'impression que nous la connaissons, que nous l'avons maintes fois entendue, que nous n'allons peut-être rien apprendre de nouveau et que nos vies continueront après comme avant. Mais Seigneur, nous savons que par cette parole, tu peux bouleverser nos vies, que par cette parole, tu peux les réorienter et que plus rien, justement, ne peut être comme avant. Donne-nous de la recevoir comme chaque fois nouvelle et chaque fois capable de nous bouleverser. Amen. Le texte de l'épître de ce jour se trouve dans la première épître, l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 12 à 20. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés et nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui est le premier. Il s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement en son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Je ne sais pas comment vous êtes attaché ou non aux confessions de foi que nous utilisons lors de nos cultes, dans nos liturgies. Et je ne sais pas non plus laquelle vous préférez. Je suis à peu près sûr que si je demandais à chacun, j'aurais autant de réponses qu'il y a de confessions de foi. Celles qui nous viennent de la tradition chrétienne, comme le symbole des apôtres, hein, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », etc. Ou celui de Nicée-Constantinople. Ou celles qui viennent d'églises contemporaines de divers endroits du monde. Il y a des confessions de foi qui nous viennent d'Afrique, d'Asie, etc., du Brésil. Ou encore, tout simplement, celles qui nous viennent de la Bible, comme ce passage de l'Épître aux Colossiens que je viens de lire et qui est en fait une confession de foi, ou celle de l'Épître aux Éphésiens que j'ai lu tout à l'heure au moment de notre confession de foi. Je sais que chacun a ses préférences auxquelles il tient beaucoup, et pourquoi pas. Ça me paraît normal qu'on y tienne, car dans la confession de foi, par définition, se dit l'essentiel de notre foi commune, communautaire. Comment pourrions-nous ne pas être particulièrement attentifs à cette partie du culte ? La plupart des confessions de foi que nous utilisons ne viennent pas de la Bible. Ce serait intéressant de faire une statistique dans les églises, de voir combien de fois dans l'année, dans nos églises, on utilise des confessions de foi qui viennent de la Bible. Je ne suis pas sûr que ça soit très souvent. Mais elles nous viennent plutôt de la tradition de l'Église. Elles sont l'expression de la manière dont l'Église a formulé sa foi en un moment précis de l'histoire, souvent pour réagir, pour apporter des réponses à des dérives sectaires ou hérétiques. C'est quand l'Église dérapait sur un point qu'on faisait une confession de foi pour dire « Eh oh, stop hein, voilà ce que nous croyons ». Souvent, ces confessions de foi sont des réactions. Donc, dans la Bible, Pourtant, il y a plusieurs confessions de foi que l'on chantait ou que l'on psalmodiait ensemble lors des cultes dans les premières églises. Toutes ne nous sont pas parvenues. Il y en avait certainement beaucoup plus, mais nous connaissons certaines d'entre elles. Et ce sont des citations, les citations que les apôtres, surtout Paul et Pierre, en font dans leurs épîtres, qui leur ont permis d'arriver jusqu'à nous. Lorsqu'on lit la Bible, si vous utilisez les versions, disons, habituelles de la Bible, on les reconnaît assez facilement, car souvent, les éditeurs de la Bible ont mis ces textes en italique, pour qu'on repère que ce sont, là, c'est plus Paul qui parle, mais il cite une confession de foi. Et ces confessions de foi sont très intéressantes pour les historiens et pour les théologiens, car nous avons là un résumé de ce que croyait l'Église primitive avant les grands conciles où l'on a élaboré les dogmes de la Trinité, de la double nature du Christ, etc., tous ces dogmes-là. Là, avec ces confessions de foi, nous avons l'essentiel de la foi avant ces grands conciles. Et lorsqu'on les regarde de près, et qu'on compare justement avec les confessions de foi historiques, on a le droit d'être un peu surpris, car on ne trouve pas dans ces confessions de foi bibliques le schéma des grandes confessions de foi de l'Église qui pose généralement d'abord Dieu comme créateur, Père et Tout-Puissant, hein, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, puis comme sauveur, dans un deuxième chapitre, je crois en Jésus-Christ, etc. Puis comme Esprit Saint, dirigeant l'Église. Généralement, ces confessions de foi ont tout ce schéma. Pour terminer, bien sûr, ça c'est logique, avec la résurrection. Les confessions de foi de la Bible ne suivent pas ce schéma. Tout part de Jésus-Christ et du salut qu'il est venu apporter pour, en conséquence, reconnaître le monde, mais seulement en conséquence, comme création de Dieu. Les choses sont inversées, et ça n'est pas sans signification. Tous les éléments y sont, mais donc dans un ordre différent, qui place le Christ au début, au centre et à la fin, comme seul moyen de connaître Dieu. C'est lui, là je cite notre texte, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui que furent créées toutes choses. Vous voyez, il récupère tout ce que dans la confession de foi classique on met sur le Père, le Saint-Esprit, là tout est en Christ. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le dogme de la Trinité, qui allait inspirer toutes les confessions de foi ultérieures, n'avait pas été élaboré, et que c'est donc le Christ qu'on trouve au centre de la foi de l'Église primitive. En fait, c'est tout le contenu de la foi biblique judéo-chrétienne qui est réinterprété à la lumière de ce salut en Jésus-Christ. Et ainsi, par exemple, vous l'avez remarqué, la création, le Dieu créateur, nous est présenté comme intimement lié au Christ. C'est en Christ que le monde est créé. Et on ne peut connaître Dieu comme créateur que par le Christ sauveur. Il est le premier, je cite à nouveau, il est le premier-né de toute créature, car c'est en lui que furent créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Avant tout, il existe et toutes choses subsistent en lui. Autrement dit, il n'y a pas de connaissance de Dieu en tant que créateur possible hors de Jésus-Christ. Pour ces premières confessions de foi, commencer ainsi, comme nous le faisons avec le credo, mais pour ceux qui aiment le credo, n'ayez crainte, on continuera à utiliser le credo de temps en temps, hein, souvent même. Je crois en Dieu, commencer en disant « je crois en Dieu le Créateur » n'était pas leur habitude et aurait pu laisser entendre que l'on pouvait connaître Dieu Créateur avant de connaître le Christ et même indépendamment du Christ, puis découvrir peut-être qu'il était aussi sauveur. Alors que là, c'est l'inverse qui est proposé. C'est parce que je connais Dieu en tant que Jésus-Christ comme sauveur que je peux ensuite le reconnaître comme créateur. Cette position centrale du Christ dans la confession de foi et le fait qu'il soit, lui, créateur, a une conséquence concrète immédiate pour Paul. Et c'est le deuxième et dernier point que je voudrais soulever. Nous sommes, dit-il, délivrés de la puissance des ténèbres. L'Église de Colosse avait à lutter contre une hérésie sectaire envahissante à l'époque qui donnait une grande importance au culte de certaines puissances spirituelles plus ou moins obscures que Paul rassemble sous les noms de trône, dignité, domination, autorité, etc. Mais Paul n'entre pas dans une description de ces puissances ni dans des conseils pour lutter contre elles. Il rappelle juste la confession de foi qui proclame la souveraineté du Christ sur toutes choses. Ce qui lui permet de dire, en d'autres mots, vous vénérez, vous avez peur de ces puissances, mais pourtant, chaque dimanche, vous confessez votre foi en disant que ces puissances qui vous inquiètent sont inférieures au Christ. Alors, recentrez-vous donc sur le Christ et oubliez ces puissances. C'est une manière de dire cela. Paul ne questionne pas les croyances des Colossiens en ces puissances. Il ne leur dit pas, vous avez tort, elles n'existent pas. Il ne s'en occupe pas. Il leur rappelle juste que le Christ est au-dessus de tout ça et qu'ils n'ont donc aucune raison de les vénérer et encore moins d'en avoir peur. Alors, vous me direz peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus le problème, car on ne vit plus dans la peur de ces divinités plus ou moins obscures. Il y a un certain temps qu'on a compris que la lune, les étoiles et le soleil ne sont pas des dieux, que la maladie nous vient de microbes et pas d'esprit de la maladie, etc., etc. Et pourtant, je ne suis pas certain que l'être humain ait moins de peur et d'angoisse irrationnelle qu'à l'époque des Romains. Elles se disent différemment, c'est tout. Mais notre monde est toujours effrayant, et il est effrayant parce que encore aujourd'hui, les grandes orientations de ce monde nous échappent et ne sont pas toujours rationnelles. La violence, personne ne veut la violence dans notre monde et pourtant elle est toujours présente. Il y a bien quelque chose d'irrationnel là. Les conflits interreligieux, la précarité économique, tout le monde veut résoudre le problème, mais ça continue quand même, comme si on était dépassé. Les manipulations génétiques, le développement de l'intelligence artificielle, etc., etc., sont autant de formes modernes de ces puissances qui effraient les humains, provoquant à la fois de la peur et de la vénération. Plus que jamais, nous avons donc besoin de chanter, de confesser la souveraineté du Christ sur ces sources d'inquiétude et d'angoisse pour les chrétiens comme pour les autres. Et je vous rappelle que la confession de foi ne dénonce pas dans le détail ces puissances en question. Elle les nomme, c'est tout, pour dire que le Christ est au-dessus. Et quelquefois dans l'Église, on a été un peu prompt à dénoncer ceci, cela, les manipulations génétiques, le racisme, etc. Tout ça, c'est bien de le dénoncer, mais c'est beaucoup mieux de dire le Christ est au-dessus de tout ça. La confession de foi donc se contente d'affirmer la suprématie de Jésus-Christ sur toutes ses forces. Et aujourd'hui, à nouveau, les puissances qui pourraient nous effrayer, quelles qu'elles soient, les forces qui pourraient nous... Il y a des forces qui pourraient nous éloigner de Dieu, mais nous n'avons rien à craindre d'elles, car le Christ est au-dessus Alors, au lieu de dénoncer tout ce qui ne va pas dans le monde, tout simplement, lors de nos confessions de foi, rappelons-nous-en, dimanche après dimanche, proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ sur le monde et sur toutes ses puissances. Amen.